suis le peintre. C'est le titre d'une BD qui a remporté le prix BDLIS indépendant. Et j'accueille avec plaisir en studio Étienne Poisson, un des créateurs de cette BD. Bonjour Étienne.
Bonjour, bon matin.
Et puis Olivier Robin, qui lui est au bout du fil. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Alors merci d'être avec nous et je vous dis d'emblée bravo, bravo pour ce bel accomplissement. Et j'ai merci. La BD devant moi, Tu es le peintre. Pourquoi vous avez voulu Tu es le peintre? Non, c'est pas...
C'est, mais... c'est une bonne question. Je pense que lui aimerait ça y répondre.
Qu'est-ce que ça raconte, Olivier?
Bonjour. Tu es le peintre. En fait, Tu es le peintre, ça part d'une expression qui est assez courante finalement, quand on dit je tuerais pour avoir quelque chose. Ah, je tuerais pour avoir ça, je tuerais pour avoir le talent de cette personne-là.
Ah oui, moi je tuerais jamais pour rien, par exemple. Mais c'est une expression connue, par exemple.
Ouais. Ça reste une expression, il faut des points de départ pour raconter des histoires. Alors elle me fait rire, moi, cette expression. Donc j'ai imaginé que quelqu'un pourrait vouloir tuer quelqu'un, peut-être pour son talent, et est venue la bobine de tiens, ça serait un peintre, parce qu'il peindrait trop bien. Ce qui est complètement stupide. Pourquoi quelqu'un peindrait trop bien? Et ça permet de tisser un début d'histoire que Étienne va certainement pouvoir complémenter. Mais c'est ça, en fait, l'idée. Ça part d'une expression, puis d'une chose un peu aberrante, qui serait de tuer quelqu'un parce qu'il ou elle fait quelque chose trop bien. Et donc pour des objectifs un peu néfastes ou pas très clairs, on va dire.
Ça commence avec une expression qui vous a fait rire et une aberration aussi qui vous a inspiré finalement. Et Étienne, vous aviez quelque chose à ajouter sur...
C'est vraiment ça, c'est un prétexte, en le fond, pour partir à l'aventure après ça et dans tous les sens.
Et comment vous vous êtes rencontrés tous les deux?
Un peu par hasard, parce que moi, je suis pas du milieu de la BD à l'origine, je suis plus du milieu de la bière.
Oui, de la microbrasserie.
Exactement, oui. Je travaille dans un dépanneur spécialisé à Sherbrooke qui s'appelle Le Vent du Nord. Là, je fais un petit peu de pub pour eux autres. Mais ils sont très connus là-bas. C'est vraiment comme presque une institution de la microbrasserie.
Le même nom que le groupe traditionnel, Vent du Nord.
Effectivement, ils ont comme une plaque signée là-bas du groupe de musique. Fait que on s'est rencontrés là-bas. Moi, je conseillais des bières et puis Olivier connaissait un peu le staff. On a jasé de musique, on a jasé de plein de choses. Et à un moment donné, la BD est venue sur la table parce que Olivier savait que je faisais de la peinture. Olivier savait que je faisais aussi des illustrations pour plein de projets. Puis,
c'est arrivé comme ça.
Ouais, il m'a parlé de son scénario. J'étais comme très intéressé. Puis je me suis rendu compte que c'était assez alambiqué comme scénario. Puis j'étais comme, OK, all right, c'est un bon défi.
Alambiqué, qu'est-ce que vous voulez dire? C'était flou, c'était pas clair, c'était absurde.
Olivier m'expliquait le pitch de départ qu'il vient d'expliquer. De tuer pour obtenir un talent. L'histoire d'un cowboy. J'aimais beaucoup l'histoire de revenir sur la thématique du Far West. Mm-hmm. C'est pas quelque chose qui m'inspirait beaucoup quand j'étais jeune, mais je dirais en grandissant, en découvrant les Western Spaghetti, les Lucky Luke, justement, et en découvrant la bande dessinée de Christophe Blain qui s'appelle Gus, une série que j'ai découvert un peu tard, justement, avant d'écrire cette BD-là puis avant de les dessiner, c'est venu comme tout, un peu nourrir l'imaginaire. Puis j'avais envie d'aller explorer cet univers-là encore plus loin qu'on ne l'avait jamais exploré.
Et Olivier, vous aviez entendu parler d'Étienne parce que vous aviez quoi? Vous fréquentiez la microbrasserie, disait que vous aviez aussi des amitiés communes ou des liens communs, des connaissances communes. Mais on vous avait dit, demande à Étienne, puis je pense qu'il va bien servir ton propos.
Non, pas du tout.
Ça s'est pas passé comme ça.
Je pense qu'on s'est rencontrés via la bière, faut être bien honnête, c'est ça finalement qui nous a reliés au départ. Lui en vendait, moi j'en achetais. mais oui, artistiquement, on a bien vu que rapidement il y avait des choses peut-être qui étaient proches. En tout cas, il y avait la musique ou autre. Puis Étienne, en fait, il l'a pas dit, mais a fait une première BD avec un de ses collègues.
Ouais, effectivement.
Quand j'ai vu le dessin, je me suis dit ça c'est un dessin qui marcherait bien. Il a commencé à faire quelques personnages, puis pour le Inktober, et je me suis dit, tiens, ça collerait tellement bien à l'univers de...
Voilà, Inktober, juste pour information, le Inktober, c'est un projet annuel, un défi annuel. Ça constitue à dessiner 30 dessins, un par jour, dans le fond, durant un mois, pendant le mois d'octobre, d'où le jeu de mots Inktober. Ça, c'est international, fait qu'il y a vraiment... Il y a comme plusieurs catégories, mais le but du défi, c'est de dessiner à chaque jour, de poster... partager son art. Puis ça, c'est extrêmement bon pour les artistes. de pratiquer leur talent puis de leur mettre de l'avant.
Et là, vous avez remporté le prix Bédélis indépendant. Ça signifie quoi, ça, dans votre parcours professionnel, dans votre vie tout court, Olivier?
Yeah, boy.
Ah ben oui. Oui, juste pour finir, en tout cas, c'est ça, pour finir sur la rencontre, et je vais vous répondre pour votre question sur le prix, pour finir sur la rencontre, c'est ça, c'est que c'est moi qui ai dit à Étienne, écoute, je trouve ton style collerait tellement bien avec une histoire que j'ai dans ma tête. Et puis on a discuté une première fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois, puis ça finit par être des longs échanges de plusieurs heures, assis, comme je dis souvent, à côté sur une table dans la cuisine, parce que c'était pas mal ça le lieu de la réunion chez nous.
Toujours autour d'une bière.
Oui, puis toujours d'échanger, vraiment. C'est sûr que moi, c'est moi qui ai fait le scénario au début, c'est Étienne qui dessine, mais à la fin, ça vient quand même être une espèce d'échange permanent entre nous deux, quoi. C'est « ouais, ça, ce serait cool. Tiens, non, ça, je trouve ça marche pas. Ouais, t'as raison. »
Ouais, c'était très organique comme processus créatif.
Et puis après, tout ça, c'est un peu un prétexte pour, oui, raconter une histoire de cow-boy, comme l'a dit Étienne, faire un peu comme Maurice avec Lucky Luke, parce qu'on parle finalement d'un peintre qui a réellement existé. Mm-hmm. Donc en fait, on tricote une histoire au début du XXe siècle de quelqu'un qui court après quelqu'un. Puis en fait, c'est un prétexte pour faire évoluer un personnage dans un monde un peu onirique et puis autour de ça. Alors ça change quoi, tu es le peintre? Ben, ça change que... Alors, pour moi, je vous dirais que c'est une autre de mes passions. Parce que moi, je suis prof dans la vraie vie, on va dire, je suis professeur de génie mécanique à l'Université de Sherbrooke. Donc, c'est un peu un à côté. Mais ça change que... Ben, déjà, c'est fou, parce qu'on s'y attendait pas, parce qu'on a commencé ça il y a un an et demi à peine. Puis un an et demi plus tard, on est comme reconnu par la communauté, ce qui est très fort. Donc moi, c'est la reconnaissance. Personnellement, pour moi, là, au niveau de ça, c'est la reconnaissance qu'on est au niveau, que tout le monde nous dit c'est super intéressant comme histoire, c'est cool, les couleurs sont belles, le dessin est beau. Puis ça nous a motivés pour déjà travailler sur la deuxième.
Ah, ben c'est ce que j'allais dire. Est-ce que vous avez envie de continuer votre collaboration?
Ah, totalement.
C'était déjà en train de continuer, puis je pense que ça va continuer encore.
Mais le projet est top secret. Mais je ne sais pas, Étienne, toi, qu'est-ce que tu as apporté? Je saisis la balle au bon pour...
Non, mais j'allais revenir à ma question, justement, de ce que ça vous a fait à vous, Étienne.
Le prix Bédélis.
De recevoir le prix,
oui. Ben, ce prix-là, oui, il a comme toute son importance pour plein de raisons. C'était incroyable parce que moi, personnellement, je ne m'y attendais pas du tout, mais vraiment pas du tout. Olivier était convaincu dès le départ qu'on allait le gagner.
Ah oui?
Je pense que c'était comme un moteur pour tout le projet, pour comme le mener jusqu'au bout. C'est vraiment comme un
moteur de motivation.
Ouais, exactement.
Là.
C'est le momentum. Là. Il fallait y aller. C'est le festival. Et pour moi, c'est aussi une super belle entrée dans le monde de la bande dessinée d'un point de vue des pairs, des collègues. Comme moi, j'ai pas eu cette chance-là à Sherbrooke de connaître d'autres BDS. Fait que là, de pouvoir aller au festival et non seulement de pouvoir rencontrer les gens, mais de pouvoir gagner un prix comme ça. Très prestigieux, à mon avis. C'est super le fun.
Demande, Étienne, de décrire le style d'Olivier et Olivier, le style d'Étienne, qu'est-ce que vous répondez? Olivier, d'abord.
La question est pour moi?
Ben, je commence avec vous.
Eh ben, le style d'Étienne, vivant, post-punk, vivant, dynamique, post-punk, et comment dire, qu'est-ce qui me manquerait? Et le mouvement. Le mouvement.
Vivant, post-punk, le mouvement dynamique dans... Ben, le mouvement, d'accord.
Oui, c'est ça, peut-être, qui revient souvent, oui.
Ouais, j'ai comme beaucoup de gestuels dans mon dessin. J'aime ça y aller très dans l'esquisse.
Oui, parce que certaines personnes pourraient dire « ça a l'air simple, mais ce ne l'est pas, j'en suis sûr. »
J'aime beaucoup l'approche aussi impressionniste. On en parle souvent dans la peinture, mais dans le dessin aussi, c'est vrai.
Ouais.
C'est aller capturer un peu l'essence à travers des ombres très mal définies, mais qui sont quand même marquantes là, visuellement.
Et il y a un genre d'hommage à la couleur aussi.
Oui, tout à fait.
Et vous, par rapport à Olivier, qu'est-ce que vous diriez, Étienne?
Olivier, c'est sûr que moi, j'ai peut-être pas autant de bagages littéraires que Oli a de bagages visuels, mettons. C'est difficile pour moi de d'écrire pour le texte. Mais je trouve qu'il y a quand même un style très européen qui ressort de ses blagues, de son humour. Moi, j'ai toujours trouvé, justement, que quand j'en parlais à lui, à des amis, je trouvais que son humour était... Sorry, parce qu'il vient de France, hein, Olivier, tu es de France?
Olivier, est-ce qu'on l'a perdu?
Non, non, c'est bon.
Ah, okay.
Je voulais juste pas me tromper.
On voulait juste valider que vous veniez bien de France.
Et oui, 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 malheureusement, malheureusement.
Mais il y a comme un blend.
Je reste à Sherbrooke, fait que je suis bilingue, on va dire.
Oui.
C'est un humour que j'apprends à apprivoiser un peu. Puis c'est aussi une façon aussi d'écrire les textes qui sont avec lesquels je suis pas forcément habitué. Le tempo, le rythme, comme mettons que son texte se prête à un découpage avec lequel je suis pas habitué encore, des fois. Fait qu'il y a vraiment ce processus-là de création, puis on s'influence l'un et l'autre.
Oui. Ouais. De la bonne façon, je crois bien. Puis le peintre, comme vous le disiez tantôt, c'est un peintre qui a vraiment existé. D'ailleurs, on a une vraie photo de lui, mais on se demande si c'est une photo qui n'a pas rapport avec ce que cet homme a fait. Là. Il s'appelle Charles Marion Russell.
Oui.
Pourquoi lui?
Encore là, Olivier...
c'est à moi de répondre. Pourquoi lui? Pourquoi lui? Parce que je suis tombé un peu par hasard sur ce personnage-là, au gré des lectures. C'est un peintre qui est relativement connu par les spécialistes de l'Ouest américain, mais qui est très peu connu du grand public. Mmh. Et là, ça m'est apparu justement aussi comme un excellent prétexte de faire un peu ce que faisait Maurice avec Lucky Luke, parce que dans Lucky Luke, ça part toujours de faits historiques. Toutes les histoires de Lucky Luke quasiment partent de faits avérés, de choses qui se sont passées, de choses qui ont été construites. Et je me suis dit que c'était parfait de trouver le lien avec cette personne-là et de ramener du réel là-dedans. Parce qu'en fait, quelque part, moi, dans mon style aussi, je suis très réaliste. Moi, tout ce que j'écris en scénario, c'est extrêmement documenté. C'est-à-dire que tout ce qui se passe, finalement, dans la BD peut paraître complètement irréaliste ou complètement fantasmé. Or, je vous dirais qu'il y a 90% de la matière qui est réelle. Je veux dire, les places où ils sont allés, c'est des vrais endroits. Les endroits où il prend le train, c'est que la gare existait à cette époque-là, etc., etc. C'est vraiment... Donc, c'est tombé sur lui et ça tombait bien. Parce qu'effectivement, ça permettait aussi de mettre des images. Comme vous l'avez dit, il y a une photo de cette personne-là, mais on ne sait pas au début si c'est quelqu'un qui a vraiment existé ou pas.
Non, non,
on ne sait pas.
Ça nous tient en haleine.
C'est bien. C'est ça qui est bien, je crois, parce que ça joue sur une espèce d'ambiguïté. On ne sait pas si on est dans le vrai monde ou dans un monde imaginaire.
Alors, on ne le dira pas de nouveau. Et vous avez parlé de Maurice. Est-ce que vous avez d'autres BDistes chouchous?
Personnellement, Christophe Blais m'a beaucoup influencé. J'ai hâte d'en parler là, à tout le monde qui parle de la BD, mais oui, effectivement, c'est Christophe Blain, il est connu notamment pour Quai d'Orsay en France, puis sa série
Un autre français.
Ouais. Ouais,
Quai d'Orsay.
J'aime beaucoup justement son côté un peu axé très sur la gestuelle. Son travail des couleurs est incroyable.
Ah
oui?
Ouais.
Son noir et blanc, c'est-à-dire ses valeurs, toutes ses ombres portées, puis sa mise en scène est incroyable. Et le découpage, bien sûr, le découpage qui est comme une technique propre à la bande dessinée. Qui sont fantastiques.
À découvrir.
Ouais, vraiment, ouais. Tout ce qu'il fait, c'est
on le connaît moins que Maurice, qui est derrière le Kiluk, Olivier.
Mais il fait beaucoup d'hommages à Maurice aussi, Christophe Blais.
Ah oui, ah
ouais,
oui.
Il a fait aussi...
Oh, c'est quelqu'un qui est très reconnu en Europe, en tout cas. Ouais. Qui est même très, très, très reconnu. Il commence à avoir des expositions rétrospectives sur toute l'œuvre de Christophe Blais. Hein, donc c'est...
Alors, vous avez remporté le prix. Il n'y a pas deux trophées, là. Qui a le prix à la maison?
C'est une garde partagée, mais pour l'instant, c'est moi qui le garde. C'est moi le dessinateur qui le garde.
C'est une garde partagée. Donc, la première année, c'est Étienne, la deuxième année, sera moi, et ainsi de suite.
Alors, l'auto-édition, ça semble être commun en BD et bénéficie aussi d'une bonne reconnaissance, notamment avec le prix BDLIS indépendant. Est-ce que vous êtes d'accord?
Alors, je crois que l'auto-édition... C'est difficile de passer à côté quand on est jeune, quand on est nouveau dans le domaine. Je pense que c'est dur. Et pour être bien honnête, je pense qu'il faut, faut avoir les reins solides pour ça, parce qu'il faut le financer, ça, au départ, là. Et puis, quelque part, si on était bon économiste, on dirait qu'on prend un risque. Mais ça donne aussi une liberté énorme. Ça donne aussi une liberté énorme. Et je crois que ça correspond bien aussi à la BD québécoise, qui est quand même très vivante, très dynamique. Moi, je suis très heureux d'être, encore une fois, reconnu par les pairs parce que je trouve que c'est une scène bédéistique qui est vraiment incroyable. On le voit bien, hein, cette année, il y a eu beaucoup de prix pour les Québécois et Québécoises. Donc, une belle reconnaissance. Et il faut passer par là, mais je vous dirais qu'après, la chance qu'on a, c'est vrai que le prix ouvre beaucoup de portes, donne tout de suite beaucoup de visibilité.
Oui, vous l'avez ressenti?
Ah oui. Ouais, oui, c'est indéniable. Enfin, je sais pas, Étienne, vas-y, mais ben oui. pour moi, c'est très clair.
Ben oui, mais ce que je trouve génial avec la, justement, l'approche indépendante comme ça, l'auto-édition, c'est quelque chose que j'avais un peu sous-évalué comme option. Quand j'avais fait ma première bande dessinée, j'ai juste décidé de ne pas l'imprimer, en fait, parce que c'était compliqué ou j'étais juste pas assez fier de ce que j'avais fait. Mais je conseille à toutes les gens qui veulent se lancer en bande dessinée, toutes les personnes que j'ai croisées au festival ont souvent commencé par là.
D'oser.
Ouais, ouais. Même par impression à la maison, par reliure 100% artisanale, ça se fait là. Il y a beaucoup d'artistes qui font ça, même des artistes qui travaillent depuis longtemps, des artistes très punk. C'est sûr qu'il y a un côté un peu DIY punk là-dedans, mais je trouve ça cool. Puis faut vraiment pas hésiter à... faut pas s'empêcher de faire de la bande dessinée en pensant qu'il faut absolument être édité avec un éditeur.
Bien, ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Encore bravo pour ce prix. Et je rappelle le titre de la BD, Tuer le peintre. C'est une création d'Olivier Robin et d'Étienne Poisson. Étienne, vous serez au Comic-Con à partir du 8 juillet.
Oui, je vais y être surtout en matinée. Mais Olivier va y être aussi.
Ah oui, OK. Parce que je suis allée sur le site, je ne voyais pas le nom d'Olivier. Ah. Alors, bonne nouvelle. Et puis, vous allez pouvoir... raconter toutes sortes d'histoires, parler de votre BD et puis de la suite des choses. On va vous suivre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Olivier Robin.
Bien, merci à vous et bonne journée.
Merci à vous aussi. Merci beaucoup, Étienne, d'être venu dans nos studios. À la prochaine.
Bonne journée.